Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'expatriation reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde. Dans ce nouvel épisode, direction New York, à la rencontre de Julie et Magali, des amoureuses de leur pays d'accueil. D'accueil, quoique. Ces deux femmes créatives, passionnées et complémentaires ont fait de New York leur terrain de jeu et s'y sentent chez elles. Enfants de la troisième culture, maman, femme de footballeur professionnel, citoyenne du monde et ayant suivi leur conjoint, Magali et Julie ont à elles deux acquis beaucoup de réseaux et en ont profité pour créer l'X&Y Consulting. Entendez par là des voyages apprenants. Surprendre, apprendre, se comprendre et entreprendre, tel est leur motto qu'elles tiennent à appliquer lors de leurs expériences sur mesure à New York. Venez comprendre ce que sont ces Learning Expeditions à travers les paroles de nos musettes du jour, Julie et Magali. Bonne écoute! Bonjour Magali et Julie, et bienvenue sur le podcast de The Musette qui vous est consacré aujourd'hui.
Merci.
Bonjour Adeline.
Bonjour Adeline.
Bon, écoutez, merci de me retrouver aujourd'hui. Donc, vous êtes les fondatrices de L'X&Y et vous êtes installées à New York depuis un moment déjà. Alors, avant de commencer, je voulais parler de vos vies d'expat. Voilà, ça fait un moment que vous vivez à New York. Est-ce que vous vous sentez plus expat ou immigré?
Ah,
ça y est, on commence.
Super bonne question.
C'est super bonne question, ouais. Tu veux commencer, Julie?
Oui, alors effectivement, on en a parlé il n'y a pas longtemps en plus.
Ouais.
Moi, personnellement, je suis arrivée en tant qu'expat parce que mon mari est venu pour un job. Et en fait, rapidement, on a décidé de rester. Et en fait, maintenant, on est vraiment des immigrés, en fait, parce que... Moi, je suis là depuis 8 ans, les enfants ont grandi ici, je vais bientôt avoir ma nationalité américaine. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette... quand on expat, on sait qu'on est là pour un certain moment, qu'on va soit repartir ailleurs ou rentrer dans son pays d'origine. Et en tout cas, nous, ce n'est plus notre cas. Donc, on est immigrés maintenant, en fait. On a changé de statut, on va dire.
Et toi, ouais. Magali,
Moi, c'est marrant parce que... Donc, on en parlait récemment, là. Et pareil, on a fait le choix avec mon mari de venir à New York, en fait. Donc, ce n'est pas une boîte qui nous y a envoyé, par contre. Mm-hmm. Donc, quand les gens me posent la question où tu habites, moi, je dis je vis à New York sans même pas penser expatriation. C'est vrai que je suis immigrée. Je suis là, j'ai choisi. Et contrairement à mon enfance, où carrément, c'est clair, où j'ai grandi complètement à l'étranger parce que mes parents étaient expats et nous emmenaient à droite et à gauche. Donc, c'est synonyme, on va dire, les deux. Expatrié et immigré, mais c'est un sujet sensible qu'on aime bien. Plus tard, on l'approfondit. Il y a pas mal de choses à dire parce que c'est vraiment une histoire d'angle de vue et pour nous, expat et immigré, c'est la même chose en fait dans la définition pure et dure. C'est quelqu'un qui est parti travailler à l'étranger et donc.
Mais dans le côté expatriation, il y a peut-être le côté, expat, il y a peut-être le côté, bon, on va revenir dans notre pays d'origine, la France, mais vous, a priori, pas vraiment, quoi.
Ouais, mais non, moi, je crois que la connotation, elle est juste un peu, honnêtement...
Péjorative,
ouais. Je crois qu'entre expatriation et immigration, il y a juste ce côté, l'expatrié, il est, entre guillemets, une classe sociale supérieure, voire blanc, et va dans un pays pour travailler. Mmh. Et l'immigré qui fait la même chose finalement, il n'a pas la même, on va dire, le même jugement. Quoi. Mais au niveau, franchement, on regarde Wikipédia ou autre, la définition, elle est claire et nette. C'est juste quelqu'un qui part à l'étranger travailler. Mmh. Donc oui, mais par contre, pour répondre à ta question première, c'est sans rentrer dans... Voilà, moi, je me considère immigrée parce que je ne rentre pas, quoi. Enfin, pour l'instant.
Pour l'instant.
Voilà.
Magali, là, tu disais justement donc, que tu as beaucoup voyagé quand tu étais petite. Tu as beaucoup connu l'expatriation. Tu as quand même fait 17 déménagements. Bravo.
Ouais.
tu es une enfant qu'on appelle de la troisième culture. Qu'est-ce que tu penses
du fait d'être cet enfant voilà, de troisième culture, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif et de négatif dans ta vie ?
Alors, moi, je vois globalement que du positif, parce que ça s'est bien passé. Par contre, on travaille beaucoup, on accompagne pas mal d'expats et ça se passe pas toujours très bien, parce que c'est vraiment, c'est particulier. Hein. Donc, l'enfant de troisième culture, c'est un enfant donc, né d'une culture de ses parents. Donc, mes parents sont français. Bon, en plus, ma mère, elle est malgache, mais bon, voilà. Mm-hmm. Tous les deux français, francophones, nés en France, mais par contre, ayant grandi avec ses codes dans un troisième pays. Donc en fait c'est vraiment particulier, on a trois cultures, on a notre culture de naissance, d'origine, puis celle qu'on s'approprie en vivant à l'étranger. Donc moi j'ai beaucoup bougé parce que mon père me faisait bouger de quasiment toutes les années scolaires, on va dire que j'ai acquis une grande capacité d'adaptabilité, je m'adapte très vite on va dire, ce qui était très embêtant c'est on se fait des amitiés et puis il faut repartir. Donc moi, ce qui manque à l'âge adulte, c'est un ami d'enfance, d'avoir des points comme ça d'ancrage dans ma vie d'avant, qui soient sur la longueur. Donc moi, c'est vrai que moi, c'est beaucoup de mémoire un petit peu à la Proust. Hein, c'est des odeurs, des idées. C'est plus ça qui me ramène à mon enfance qu'un lieu. Je pense, en parlant comme ça, je pense à mon mari qui lui a vécu au même endroit tout le temps et qui me parle toujours quand j'étais petit ceci, ou mon compagnon d'enfance, voilà. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais par contre, oui, le fait d'avoir beaucoup bougé, moi j'adore. D'ailleurs, c'est un virus, j'ai reproduit ça à l'âge adulte, hein, puisque j'ai fait bouger dès que j'ai été grande.
Ouais, bien sûr, ça t'a ouvert l'esprit, je suppose.
Plus ça ouvre l'esprit, ça. Moi, j'adore les voyages, j'adore me perdre dans mes voyages touristiques. Hein. Je vais souvent dans un endroit sans carte au départ pour rencontrer des gens. Donc, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'empathie, comprendre comment les gens vivent pour apprécier sa vie à soi. Beaucoup de positifs. Ça n'a pas toujours été facile, c'est clair. Il y a toujours cette phase de transition. On parle souvent dans les accompagnements qu'on fait. On a ces fameuses phases-là de ce qu'est la vie d'expatriation. Ouais. Et ça passe par des hauts et des bas. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important d'être au courant de tout ça et d'avoir des gens qui puissent t'accompagner parce que ça peut être aussi très douloureux. Moi, ça s'est très bien passé. On sait que ça peut aussi moins bien se passer.
Et je me demandais, donc vous avez toutes les deux des enfants, est-ce que vous pensez que vos enfants aussi font partie de cette troisième culture ? Je pense aussi à toi, Julie, parce que je sais que ta fille qui est née en Espagne.
Elle est née en France, mais elle a grandi en Espagne. On est arrivé en Espagne, elle avait quelques mois, quoi. Donc,
Mais est-ce que vous les considérez comme aussi qui font partie de cette troisième culture ?
Ah bah oui, parce que de toute façon, à partir du moment où toi, en plus, enfin moi, mon mari est congolais, donc même s'il a grandi en France, il a une culture quand même imprégnée par cette culture, enfin il a grandi imprégné de cette culture africaine, et régulièrement, tu as quand même des petites frictions avec tes enfants, où ils ne comprennent pas certains principes, certaines valeurs que tu puisses avoir, ou juste certaines façons de faire en fait, et parce que toi, tu le fais à la française, et eux, dans leur environnement au quotidien, ils te regardent en disant « mais on ne fait pas ça ici ». Je lui dis « mais tu lâches pas ton truc en disant « mais non, je veux que tu sois élevé d'une certaine manière, je veux que tu te comportes d'une certaine manière ». Et c'est là où, en fait, c'est parfois difficile pour ces enfants qui ne se reconnaissent pas forcément dans la culture de leurs propres parents, mais pas non plus complètement dans la culture environnante, en fait, tu vois. Ouais. Donc voilà, on a des petites situations, c'est assez intéressant, où on ne comprend
J'imagine que même entre couples, enfin, si ton mari congolais et toi française,
voilà.
Au niveau de la culture, des fois ça a pu bugger.
Voilà, l'organisation de ton mariage, la communication avec la famille. Enfin, oui, effectivement, t'as des grands moments où tu te dis, oulala, va falloir qu'on remette les choses à plat. Mais bon, ça fait partie, c'est ce qu'a expliqué Magali, c'est quand tu grandis aussi comme ça et que... t'es habitué à t'adapter, à essayer de comprendre l'autre, et à te dire, on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qui se passe ? C'est assez formateur après quand tu voyages et que tu dois t'adapter, comprendre le monde qui t'entoure. Mais en tout cas, pour les enfants, pour en revenir à eux, c'est vrai que c'est hyper important de savoir prendre du recul Et de prendre aussi le meilleur de la culture environnante. C'est vrai que parfois, quand on va à l'étranger, on a une phase, ce qu'on appelle de rejet. Tu sais, il y a des cycles d'expatriation. Ouais. Et pour éviter ça et de mal le vivre, il faut se dire, OK, bon, il y a quand même ça de bien. Il faut en profiter. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour la culture américaine, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont quand même très sympas.
Tu vois, moi, je rebondis juste. C'est que mes enfants, moi, ils sont nés ici à New York. Moi, c'est des petits Américains. C'est ce que, tu sais quoi ? C'est en fait ce que nous disent nos grands-parents et notre famille quand on rentre. Ah bah, c'est des petits Américains.
Oui, alors voilà, justement.
Pardon, vas-y.
Non, vas-y, fini.
Non, je disais, dans leur comportement, c'est même du body language, quoi. C'est du langage corporel, c'est la façon de s'exprimer, c'est...
Ils tutoient tout le monde, le vouvoiement n'existe pas, donc ils arrivent à la boulangerie, tu me donnes un pain au chocolat ? Non, tu vous à la dame que tu ne connais pas. C'est assez drôle.
Donc, mais tu te rends compte quand tu rentres, quoi. Et nous, c'est que... Je pense que... Et ça, tu vois, c'est les amis américains, pour le coup, qui reçoivent nos enfants chez eux. On dit, oh là là, ils sont bien élevés, où ils font ci, font ça, ça se voit que c'est des Français, tu vois, on s'en rend même pas compte. Donc ouais. En fait, tu vois, nos enfants sont ça, quoi. Ils évoluent, ils nagent, ils prennent, et c'est vraiment ça, la troisième culture, quoi.
Oui, c'est ça, et c'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est vous observez, quand vous rentrez en France, chez eux, une façon de faire, un savoir-être différent par rapport aux autres enfants, qui, eux, ne connaissent pas forcément l'expatriation et qui n'ont pas vécu cette expérience, quoi.
Clairement. Clairement, ouais. mais je crois que ça va aussi des deux côtés. Hein. Ils apprennent aussi beaucoup de leurs cousins, cousines, copains sur place qui voient les choses différemment, mais ça ne veut pas dire moins bien. Donc, c'est toujours très intéressant, les échanges. Et moi, mes enfants, quand ils rentrent en France, du coup, ils s'adaptent. C'est-à-dire qu'ils vont changer, ils vont s'adapter à... Ici, c'est New York, c'est leur vie de tous les jours. Mais rentrer en France, voilà, on se tient un peu différemment à table. Ils sont conscients d'un changement d'environnement.
Ouais. Après, ils le font aussi de toute façon à New York régulièrement parce qu'ils ont tous des petits copains avec des cultures différentes. Moi, j'ai une fille, elle est très copine avec une petite fille qui est d'origine coréenne. Ils ont des matelas futons, ils mangent de la nourriture coréenne et elle adore parce que elle a appris à faire les petites boulettes de riz. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vivent aussi, enfin grâce au fait de vivre à New York, t'apprends aussi à découvrir d'autres cultures juste en fréquentant tes petits copains de l'école, quoi.
Ah oui, non. Ouais, je suis d'accord, ça c'est vrai, ils s'adaptent en plus et puis ils apprennent ailleurs et c'est hyper enrichissant. Et,
ouais, j'ai aussi ils sont à l'aise, ils sont à l'aise, tu vois, le truc c'est d'être à l'aise parce que nous adultes, quand on sait qu'on doit s'adapter, il y a quand même quelque chose qui se fait au niveau du cerveau, quoi. C'est ton cerveau qui te dit bon, ça va aller, etc. Les enfants, c'est voilà.
Et justement, encore en parlant de vos enfants, vous avez décidé de les mettre dans des écoles de quartier. Et pourquoi vous n'avez pas choisi de les mettre dans le système français ou international ?
Bah moi, ils ont commencé comme ça. Hein. Quand on est arrivé la première année, ils étaient en école privée, donc l'équivalent du lycée français, où ils faisaient le programme français et le programme américain. Et en fait, moi, très vite, je ne voulais pas qui grandissent entourés d'expats parce que les gens vont et viennent et finalement t'as pas vraiment de d'amis d'enfance. C'est ce que disait un peu Magali au début du podcast où en fait tu peux pas créer d'amitié sur le long terme, même si maintenant les enfants se Skype, enfin tu vois, font des FaceTime etc, mais c'est pas la même chose. Et aussi en fait je trouvais qu'on était un peu en dehors de la vraie culture new-yorkaise parce qu'on fréquentait pas vraiment de locaux, en fait. Tu es quand même entouré de beaucoup d'expatriés. Et moi, je voulais qu'ils soient immergés dans la culture américaine. Donc, on les a basculés dans le système public à Brooklyn, donc, au bout d'un an.
J'ai pas compris. Ils aiment bien. Oui, non, ça...
Non, et toi, Magali, tu les as mis...
Non, nous, ça a été un choix d'emblée parce qu'on savait qu'on resterait ici pendant un petit moment. Et on a fait le choix. On dit, même si on rentre en France, on part ailleurs, ils seront dans un lycée international, en fait, dans une école internationale. Mais on part de la culture américaine. Moi, j'ai grandi dans les lycées français, pour le coup. Et c'était ça un petit peu aussi les choix des pays. Hein. C'était, il fallait toujours qu'il y ait un lycée français. Et ça a un peu dicté le choix de mes études et puis après. Et avec mes enfants, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus ouvert encore et d'avoir la possibilité de basculer vers des options internationales si le besoin s'en faisait sentir dans le futur. Quoi.
Ok. Et qu'est-ce que vous aimez à New York que vous ne retrouvez pas dans les autres pays dans lesquels vous avez voyagé ou vécu, dans lesquels vous avez visité? Qu'est-ce qui est différent?
Plein de choses.
Ouais. Oui, c'est sûr, plein de choses. Mais...
c'est tellement, en fait, moi j'ai beaucoup voyagé et... Alors attention, on parle vraiment de New York et pas des États-Unis, donc c'est vraiment New York. Bien voilà. C'est vraiment un endroit où je me sens à l'aise. Moi, personnellement, je me sens à l'aise en tant que femme, en tant que personne donc de couleur. Je me sens à l'aise avec les valeurs qui entourent mes enfants. Alors tout n'est pas parfait, hein, ça c'est clair, mais c'est aussi ce qui en fait la singularité, c'est que les trucs imparfaits, c'est énorme. Donc ça permet aussi de faire des leçons et d'être dans l'introspection pas mal de fois. Mais c'est ce multipote, en fait. C'est de savoir que c'est une ville qui est, du coup, d'immigrés. Tu vois, c'est... Et bien sûr, tu peux retrouver ça dans plein de villes, de grandes villes du monde, où tu vas toujours te retrouver avec des gens qui viennent d'ailleurs. Mais ici, c'est naturel. Tu le sens dans la nourriture, dans les échanges. Hier, on était avec Julie, on était à une soirée, là... Et on était 8 à table, personne ne venait du même endroit. Par contre, ce qui nous rassemblait, c'était d'être à New York et les raisons pour lesquelles on était là. Quoi. Et c'était juste, on est bien. On est bien, c'est... Voilà.
Donc toi, c'est à l'aise. T'es à l'aise. T'es dans ton environnement.
Pour moi, c'est... Pour beaucoup, c'est the place to be, pour plein de raisons. Pour moi, c'est my place to be, parce que c'est... J'y suis bien.
Ok. Et toi, Magali ? Julie, pardon.
Moi, je dirais... Enfin, la première, vraiment la toute première raison, c'est vraiment le fait d'avoir quand même... Alors, c'est très paradoxal parce que vous avez des news qui vous disent le contraire, mais nous, c'est vraiment en termes de racisme et de fait de bien vivre en tant que personne de couleur. Nous, mon mari est donc noir, moi, je suis métisse, mes enfants aussi, et on a trouvé, en fait... une place en termes d'identité, en termes de reconnaissance. Je dirais qu'il y a vraiment une culture à New York autour de ce... Enfin, tu vois, de Black American qui est hyper empowering. Enfin, disons que... Tu vois, en France, tu as toujours un côté... t'es noir, mais t'es pas français, tu viens d'où ? Alors qu'ici, en fait, il n'y a pas ça. Tu peux être de couleur, être américain, être de couleur, être français, c'est pas un problème. Tu vois, moi, j'ai un petit accent français quand je parle anglais. C'est pas un problème, je peux être quand même américaine. Et je voulais que mes enfants, en fait, ils n'aient pas honte de leurs origines, ils osent faire plein de choses, qu'ils n'aient pas l'impression de se cacher ou de ne pas pouvoir avoir accès à certains postes ou à certaines écoles ou... à cause de leur couleur ou de leur nom de famille qui est très connoté africain. Donc ça a été une première chose. Et aussi, en tant que femme, quand on est à New York, on se sent quand même beaucoup plus à l'aise en tant que femme. Ça veut dire que dans la rue, dans ton boulot, tu es quand même moins sujette à des micro-agressions ou à du harcèlement. Et je le vois avec mes filles qui sont ados. Tu as quand même une sorte de respect que tu vois, en France, on n'a pas toujours, en fait. Et ça, j'adore, en fait, à New York. C'est que tu es dans le métro, la place qu'il va avoir à côté de toi, la place assise à côté de toi, la personne à côté va bien faire attention de ne pas toucher la cuisse, de ne pas, tu vois, avoir... Alors que dans le métro à Paris, enfin...
Ah oui, ben non.
Excuse-moi, tu ne vois pas que c'est mon épaule que tu touches depuis tout à l'heure. Ouais. Et bon, je sais qu'il y a des Parisiennes qui vont dire « Oui, mais bon, c'est le charme latin, etc. etc. » Mais moi, ça m'a... Enfin, quand je bossais à Paris, c'était un peu lourd, je trouvais.
Donc, en fait, pour toi, c'est presque... voilà, New York, c'est un facilitateur, j'allais dire.
C'est une libération.
Non, mais voilà, ça te facilite la vie. Tu te sens... ton identité, elle n'est pas... bousculée comme elle pourrait l'être en France, quoi.
Ouais, je trouve que c'est, non, c'est un environnement qui est très propice à l'épanouissement de ta personnalité quand tu as le profil de notre famille.
Ouais, je comprends. Et hors États-Unis, New York, hein, voilà, quel pays vous avez le plus apprécié et pourquoi ? Alors, parce que bon, Julie, t'as
moi, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Magali, t'es un peu plus la spécialiste. Moi, j'ai juste vécu en Espagne, que j'ai adoré.
Ouais, mais t'as visité pas mal avec le boulot.
Oui, oui. Alors, oui. Mais du coup, c'est pas pareil. Parce que quand tu vis, c'est pas... Enfin, c'est ce qu'on dit aussi quand les gens fantasment un peu avec New York. C'est que y aller une semaine et y vivre à plein temps, c'est pas du tout la même réalité.
C'est ça.
Donc, je vais laisser Magali parler parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi.
Le pays, c'est cliché, mais je suis une citoyenne du monde, quoi. Je trouve que chaque continent, j'adore voyager et je trouve que, bon, moi, j'ai une mémoire, enfin, j'ai quelque chose de très doux pour l'Afrique parce que j'y ai grandi et j'aime ce peuple parce que c'est vrai que c'est des peuples, mais j'aime beaucoup ce qu'ils nous apprennent, j'aime le côté, ouais, tu sens que c'est les racines de beaucoup de choses. Et, et moi, j'ai beaucoup de douceur. Et tu vois, je les vois beaucoup avec de la nourriture, pour le coup. Ouais. Les odeurs, le soleil de la générosité. Tu vois, moi, j'associe beaucoup tous ces endroits-là à des émotions, en fait.
Ouais, comme tu disais, c'est la Madeleine de Proust, quoi, c'est ça.
C'est parce que je suis pas restée assez longtemps dans les lieux, peut-être, mais tu vois, moi, même New York, pour rebondir très très rapidement, c'est ça en fait. C'est beaucoup les émotions ici. J'y suis bien parce que c'est joie, gratitude, espoir, les conversations qu'on peut avoir. Enfin, voilà. Donc, l'Afrique, c'est ça. J'adore l'Asie. Donc là, j'ai pas vécu pour le coup, mais j'ai beaucoup voyagé. Pareil, hein, la culture, les couleurs, je ne sais pas. Au niveau...
Magali, elle aime le monde. Magali, elle aime le
ouais,
monde.
Non.
Mais oui, mais c'est pour ça qu'on est à New York aussi, c'est qu'on est en contact avec plein.
Je retrouve tout ça. Tu vois, au niveau vécu, avant New York, je dirais, moi, j'ai beaucoup aimé Londres, donc j'ai vécu pas mal aussi. J'adore les Anglais parce qu'ils ont un côté c'est leur personnalité quoi qui m'intrigue et j'aime beaucoup ça aussi. J'adore le Brésil. J'adore le Brésil, hein, je trouve que c'est...
Voilà, ça, j'aurais pas dû te poser la question.
Voilà, non, il faut que tu me dises où est-ce que j'aime pas. Et même là, j'aurais un peu de mal aussi quand même. J'en ai deux droits où j'ai moins aimé. Mais non, c'est beau le monde et c'est vrai que quand tu vois tout ce qui s'y passe, hein, c'est vrai que je comprends pas parce que dès que tu commences à t'intéresser à l'autre, à être curieux, bah, t'as plus besoin d'en avoir peur, c'est génial. En fait, on essaye de dire beaucoup le discours c'est abat les différences, on est tous pareils, mais moi je suis pas d'accord. Moi je dis vive la différence quoi, c'est super d'être pas pareil, hein. On serait tous pareils, mais ce serait chiant quoi.
Ça serait triste.
Donc moi je suis. Je suis ravie, j'aime pas tout, hein, j'aime pas tout le monde, c'est pas ce que je veux dire.
Oui.
Mais
t'aimes le monde, quoi, voilà.
J'aime le monde et je pense, tu vois, même sans partir dans des... Je suis pas reliée, je pense que la raison pour laquelle on est tous différents, c'est ça, quoi.
Ouais, c'est pour qu'on a... Non, mais t'as raison. Donc, à New York, on a cette image hein, qui, pour le coup, est vraie d'une ville qui grouille, qui s'arrête pas, toujours en effervescence et qui entreprend coûte que coûte. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui.
Tout à fait. Bon alors, ok. Donc, ce qui m'amène à parler de vos vies professionnelles. Alors, toi, Julie, toi, tu es hyper créative. Avant le business que tu as lancé avec Magali, tu as un background dans l'art et dans la mode. Et tu as même lancé une ligne de chemises pour femmes, hein, Rue Mercer, on dit, c'est ça ?
Rue Mercer, ouais.
Ouais. Qu'est-ce que t'as apporté cette expérience ?
Beaucoup de choses en fait. Moi je suis arrivée à New York, avant je travaillais dans l'art à Paris pour une galerie d'art et en fait rapidement je me suis rendu compte que j'avais mon fils qui était tout petit, il devait avoir un an et demi quand je suis arrivée et de reprendre un job à plein temps ici, un job à plein temps c'est pas 35 heures, hein, c'est 40 voire 50 heures et en plus avec énormément, enfin c'est très... comment on dit ça, on dit demanding en anglais, c'est
oui, prenant.
Très prenant dès que tu as des responsabilités. Donc, je me suis dit, bon, vaut mieux que j'entreprenne. Et là, j'ai rencontré donc une mannequin qui vivait ici depuis 13 ans et qui voulait se reconvertir. Elle savait que j'avais un background dans la mode et on s'est associés. C'est vrai que du coup, on a fabriqué nos collections à New York. On les a designées toutes les deux et on faisait tout nous-mêmes. Donc, on faisait la presse, la communication, on gérait la production. Enfin, on n'était pas en train de coudre les chemises nous-mêmes. Mais voilà, on avait des usines locales dans le Garment District à New York. Et du coup, ça a été hyper formateur parce que j'ai tout appris sur le tas en termes de communication, en termes techniques, des façons de faire, comment communiquer, enfin, tout. En fait, ça a été une formation accélérée. Et en tout cas, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait tenter et que si on ne tentait pas, il ne fallait pas s'attendre à ce que les gens viennent nous chercher parce qu'on était française, qu'on avait des beaux produits, etc. C'est qu'il fallait constamment contacter les gens, parler de nos produits, sortir, faire des événements. Et en fait, ça a quand même payé parce qu'on a été quand même à rencontrer les fashion editors à Vogue alors qu'on n'était absolument personne, quoi. On est... Et voilà, donc franchement, moi, ça a été une super expérience et ça m'a vraiment appris à ne pas avoir honte et à oser.
Ah, cool. Toi Magali, toi, tu as une maîtrise dans la science de l'éducation. Pour l'anecdote, hein, quand même, on va le dire, parce que bon, voilà, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une personne qui a quand même travaillé pour Madonna, donc la reine quand même de la pop, et tu as été la tutrice de ses enfants. Et c'est là aussi que tu as rencontré sa chef et qui t'a fait comprendre que la nutrition, la façon de se nourrir, ça ne devait pas être une contrainte, mais un plaisir. J'ai bien raison, hein, c'est bien ça, on est d'accord.
Non, mais t'as bien bossé, hein. T'as bien bossé, ouais, dis donc.
Toi, avec l'expérience que t'as d'avoir travaillé quand même avec Madonna et la création de Vibrante Lily, donc ce concept qui remet la nutrition dans une image globale, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi?
Alors, Madonna, c'est clair, ça a été, alors là, côté, je veux dire, choc culturel, et première, voilà, ça a été ça, parce qu'avant elle, voilà.
Donc, non, ça a été... Madonna, quoi.
Non, c'est sûr, non, ça a été une expérience unique, enrichissante, et évidemment que ça m'a ouvert, un, pas mal de portes, deux, pas mal d'ouverture sur des choses auxquelles j'aurais pas eu accès moi-même en tant que moi. Donc, c'est vrai que ça, c'était intéressant. Donc, oui, j'étais... donc, mon boulot, à la base, c'était tutrice. Donc, de faire l'école à ses enfants quand elle les emmenait à droite et à gauche. Donc, ça s'est fait sur une période de 10 ans à peu près. Et par la force des choses, j'ai fait d'autres choses qui étaient parfois son assistante et donc cuisiner aussi. Quand le chef était off. Et c'est comme ça qu'effectivement, je me suis retournée vers la nutrition parce qu'il s'est établi un changement. Enfin, j'ai vu des changements dans moi, façon de manger, etc. Donc, je trouvais ça très intéressant. Donc, c'est devenu une petite passion parallèle. Et quand je suis arrivée à New York, donc avec la dame au départ, quand je suis venue rejoindre mon copain à l'époque, lui, by the way, avait gagné la carte verte à la loterie quand même. Mon mari est arrivé comme ça ici. Ça arrive, voilà. Donc, il a débarqué comme ça. Et puis, il m'a dit, tu veux me rejoindre? Et moi, j'avais la chance de travailler déjà pour elle. Donc, au niveau visa, ça a été super simple. Parce que c'est ça aussi, l'expatriation et toute l'immigration, c'est beaucoup quand même aux États-Unis des problèmes de paperasse. Et puis là, très vite, hein, moi, je suis tombée enceinte. Et là, c'était incompatible avec le boulot avec Madonna, quoi. Donc, j'ai dû me réinventer. Et du coup, j'ai professionnalisé ma passion. Et donc, j'ai étudié la nutrithérapie. Je suis tombée là-dedans. Et maintenant, voilà, en parallèle de l'ex-NY, je suis coach nutrition positive. Et ça m'a appris, donc le coaching, à vraiment écouter. Les gens, c'est surtout eux qui font le boulot et ça, c'est un gros truc qu'on applique dans l'ex-NY en fait. Les gens, en fait, ils arrivent souvent en disant j'ai un problème, vous allez me donner la solution et on s'aperçoit dans l'accompagnement que la solution est longue et que c'est surtout un changement d'état d'esprit de mindset et que et New York, pour ça, c'est l'endroit. L'endroit pour comprendre que tout est une question d'angle.
Donc justement, à parler de ce projet que vous avez lancé, donc vous avez quand même, toutes les deux, vous venez quand même de mondes complètement différents, professionnellement parlant. Vous êtes quand même trouvé, vous avez donc décidé de monter l'XNY Consulting. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Learning Expedition et plus développer, nous expliquer votre projet ? Parce que moi, personnellement, je le trouve hyper intéressant.
Tu veux que je continue, Julie ?
Ouais, vas-y.
Alors, donc, l'XNY, l'X, c'est la contraction de Learning Expedition, comme tu disais. Et la Learning Expedition, en français, on l'a traduit par le voyage apprenant. Et donc ça, c'est quoi ? C'est un voyage en général de 3 à 5 jours, donc organisé autour d'un thème, donc choisi souvent par la direction en fait, qui envoie le groupe. Et le but, c'est que ces participants puissent en fait découvrir un écosystème innovant. Donc ça veut dire tout simplement ce qui tourne autour des technologies. Donc ça peut être food tech, donc la nourriture, ça peut être fintech, les milieux de la finance, ça peut être... la fashion tech, tu vois, le retail, donc plein de choses. Donc, à partir du moment qu'un thème est choisi, nous, on crée en fait une série de rendez-vous, donc sur 3 à 5 jours, donc. Et le but, c'est d'emmener ces participants sur des lieux un petit peu hors sentier, rencontrer des gens inspirants, comme on dit, donc... voilà, et coller tout ça, en fait, avec des moments de brainstorming, de remise en question. Et le but, en fait, c'est ce qu'on appelle... Donc, la Learning Expedition, c'est une méthodologie d'accompagnement dans le changement. Et dans notre jargon, on appelle ça un accélérateur de la transformation. Parce que, voilà, ils ont appelé ça... C'est pas nous, hein, c'est pas notre concept à la base. C'est une expédition, parce que c'est pas une croisière, comme on dit souvent. C'est vraiment... on emmène les gens... en expédition, dans le sens où on les sort de leur zone de confort. Pour accélérer, en fait, la transformation, tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Donc, même si on organise tout autour d'un thème, on a plein de petits moyens et de moments où les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils vont avoir à faire ou à entendre ou à dire, etc. Et c'est ça, en fait, qui accélère le changement. Oui. Donc, voilà. Donc, j'ai tout dit. Julie,
ouais, c'est bien, c'est une bonne définition.
Donc en fait, si on comprend bien pour être sûr, c'est qu'en fait, vous faites découvrir à travers la ville de New York, c'est de se découvrir en tant que femme, mais pas que, mais aussi en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, et en fait de tirer toutes ces expériences, la substance entrepreneuriale de New York, quoi, en gros.
En fait, on accueille tous les profils. Hein. Donc, c'est pas que pour les entrepreneurs ou que pour les femmes. Ça peut être des gens qui sont employés, parce qu'on a notamment eu ça. Donc, un groupe qui vient d'une boîte et qui vient pour je sais pas, 3 à 5 jours. C'est, en fait, quand tu viens à New York, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a à disposition sur New York tout un tas d'éléments qui font qu'on a une diversité d'expériences, de lieux à visiter, de personnes à rencontrer, qui est hyper vaste et qui permet, en fait, suivant ton profil, d'augmenter tes compétences, de découvrir des nouvelles, on dit practice, donc des nouvelles façons de faire, par exemple, je sais pas, dans le leadership, tu vois, tu diriges une équipe et puis tu veux améliorer ta communication, tu veux améliorer ta rentabilité ou tu veux améliorer tes performances. Qu'est-ce qui se fait à New York? Comment ils font ça? Comment ils arrivent à parler en public? Enfin, il y a plein de thématiques à aborder. Et en fait... c'est là où c'est intéressant dans notre concept, c'est que l'Alex, elle est déclinable à l'infini, en fait.
Donc, faut vraiment... Parce que, en fait, à New York, parce qu'à New York, ils ont toujours un coup d'avance sur nous, quoi, j'allais dire.
En fait, c'est même pas un coup... Enfin, c'est un peu prétentieux, parfois, de dire ça. L'avantage qu'on a à New York, c'est que, comme c'est un carrefour, c'est même pas que les New-Yorkais, c'est aussi les gens qui sont là de passage, qui t'apportent quelque chose en plus. Donc, tu vois, on n'aime pas trop dire, oh, non, mais New York, c'est...
Excuse-moi quand même, mais c'est pas nous qui le disons, c'est Dell. Je permets juste de couper Dell régulièrement. Ah. Dell, c'est pas nous, hein, c'est les sondages, etc. Oui. New York, bah vas-y, il faut le dire quand même.
Non, parce que En fait, le truc, c'est qu'il y a régulièrement des études qui sont faites. Et effectivement, en termes d'écosystème de start-up, on est quand même le deuxième le plus économique, enfin le plus dynamique au monde. Donc oui, les chiffres, les études prouvent que... Mais il faut aussi comprendre ce qui fait que... Enfin, ce n'est pas que les New-Yorkais eux-mêmes, c'est aussi tout un ensemble, en fait.
Voilà, donc, voilà, c'est ça. Mais donc, en fait, on vient vous voir en petit groupe et vous nous faites 3 à 5 jours hyper personnalisés. Mm-hmm. On va rencontrer du monde, on va vivre des expériences sur mesure à travers le regard de New York et de ses entrepreneurs, de ses salariés, des gens que vous connaissez, quoi.
Exactement, c'est ça. Notre network. Ah.
Bon, et tu vois, ça peut être, tu vois, souvent, bon, c'est vrai qu'on parlait de tech tout à l'heure, donc ça peut être très particulier, mais ça peut être un groupe de femmes qui veulent monter, je sais pas moi, leur chaîne de fitness en France. Et tu vois, la Learning Expedition, ce sera ça, ce sera d'aller voir ce qui se fait dans le monde du sport, dans la nutrition, enfin, toi. Donc, tout, c'est pour ça que je disais, tout, c'est vraiment déclinable. Ça, c'est vraiment notre spécificité à LXNY, parce que vraiment, à la base, la Learning Expedition, c'est vraiment le système innovant technologique. C'est souvent des boîtes, c'est souvent, tu vois, des gens qui... Mais nous, on le décline à d'autres thèmes. Tu vois, là, en ce moment, c'est beaucoup la diversité-inclusion, parce que c'est énorme ce qui se passe en ce moment, évidemment, depuis l'année dernière, surtout aux États-Unis et à New York. Il y a plein de choses qui sortent et qui seraient très positives à appliquer, tu vois, en France, par exemple. Ouais. Donc ça va être une expedition qui est axée sur cette thématique-là, par exemple. Ouais.
Et je voulais préciser que quand on vient faire une expérience avec vous sur les 3 à 5 jours, c'est pas un rendez-vous par jour, hein, c'est 3 à 5 rendez-vous par jour. Hein. Ouais. Donc à la fin de la semaine, on est chargé d'infos.
C'est un peu ça.
Comment vous avez eu l'idée de monter un tel projet ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une amie commune qui devait organiser une Lex et qui ne pouvait pas pour x ou y raison, et qui nous a dit « Écoutez les filles, je sais que vous avez le réseau, parce que faut dire aussi que nos backgrounds ont fait que on a accumulé en fait tout un nombre de contacts et de connaissances sur New York qui font que quand même on connaît des gens dans des domaines complètement divers. Et du coup, en mettant ça en commun, on a eu accès quand même à pas mal de personnalité intéressante. Et en fait, elle nous a dit organiser cette Lex. C'est ce qu'on a fait au pied levé en se disant ok, on y va, on le fait tout de suite. Et après cette semaine, on s'est dit non, mais c'est génial, il faut qu'on continue à faire ça, parce que le retour du groupe qu'on avait eu était génial. Nous, on a adoré l'expérience aussi de mettre toutes nos compétences d'analyse, notre network en commun, et de créer en fait ce voyage. On s'est dit mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé.
Et est-ce que vous pensez que, quel que soit le type de projet qu'on a, est-ce que le réseau, c'est la clé, ou du moins, c'est une des clés de la réussite ?
Clairement, c'est sûr. C'est sûr, nous, alors particulièrement dans les Lex, hein, même si on a des gens qu'on voit concrètement tous les jours, créer une Learning Expedition sans réseau, c'est pas possible. Alors, c'est soit du direct, soit des gens qui vont dire « Ouais, non, mais j'ai pas, mais par contre, je peux te connecter à quelqu'un. » Donc, le réseau, oui, ça fait avancer, comme je dis souvent, le schmilblick quand même, pas mal.
Ok. T'es d'accord aussi, Julie ?
Oui, je dirais le réseau, et puis le rapport humain aussi, parce que, comme te disait Magali, donc elle aime tout le monde, et moi aussi.
C'est un problème des fois.
Ah, en fait, c'est ce qui nous a aussi, comment dire, rapprochés, c'est que on va sortir, et puis les gens vont nous raconter leur histoire, leur parcours, et on va les écouter, et en fait, pinpoint, tu sais, ce qui est hyper intéressant chez eux. On va les revoir en se rappelant qu'ils ont bossé dans telle boîte avant, ou qu'ils ont eu telle expérience, et en fait, c'est vraiment tes compétences de communication et d'analyste qui font aussi que les gens ont envie de partager, de participer à ta Learning Expedition. Et de vivre aussi c'est quand même particulier d'aller dire aux gens est-ce que tu veux rencontrer un groupe et raconter ta vie professionnelle, leur donner tes conseils. C'est il faut que les gens aient un bon contact avec toi, et ça aussi c'est important.
Je comprends. Est-ce que vous trouvez qu'à New York il y a plus une mentalité entrepreneuriale que dans les autres grandes villes américaines?
Je crois que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une spécificité américaine. Ça, c'est, je crois que c'est ce qui fait que l'économie américaine est ce qu'elle est aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est tellement facile, en fait, pas tellement, on va dire. C'est plus facile de monter sa boîte ici qu'on va dire déjà en France. Tu as quand même un tas d'outils, plus l'entraide. Enfin, tu as vraiment le terreau qu'il faut pour mieux réussir ici qu'ailleurs. New York, c'est évident pour les raisons que Julie a citées plus tôt, hein, c'est que c'est vraiment, point de vue tout simplement localisation, logistique, ça facilite le tout, donc ça attire énormément de gens parce que tout est en place pour réussir, en fait.
Après, tu crois pas aussi que le fait de... Enfin, socialement aussi parlant, aux États-Unis, t'as pas autant d'aides qu'en France, donc le fait d'être employé, ça t'apporte pas tant de choses que ça. C'est-à-dire que le chômage, c'est pas grand-chose, et je crois qu'il y en a quasiment pas au bout d'un certain moment, enfin très rapidement, au bout de quelques mois. T'as pas de sécurité sociale, etc. Donc si tu te bouges pas toi, et si tu te crées pas des opportunités et donc du travail, eh ben t'as pas d'argent pour vivre, quoi. Il y a pas d'allocation, de choses comme ça. Donc je pense aussi que ça pousse les gens à entreprendre assez rapidement quand ils se rendent compte que voilà, ils vont pas avoir le job.
C'est ça, tu vois. Je pensais à un autre chiffre aussi important, tu vois. Donc New York, deuxième ville, donc écosystème, une start-up. Et par contre, c'est la première ville pour les femmes, quoi, entrepreneurs. C'est vraiment la ville où les femmes réussissent le mieux et le plus, tu vois. Il y a 40% des jobs à New York, des entreprises à New York qui sont créées par des femmes. Et alors oui, c'est pas que dans la tech, mais ça va être des femmes qui veulent améliorer leur quotidien. On a une belle histoire d'une dame qui décide à faire des bagels, soit tu vois, qui et qui va parce qu'elle veut améliorer le quotidien de ses enfants, etc. Donc tu as plein de petites histoires qui commencent petits comme ça. Des petits réseaux qui vont beaucoup ici à New York se faire en fonction des communautés dans un premier temps, et après entre genres, tu vois, les femmes, et ça monte. Mais ça, l'entrepreneuriat ici, comme disait Julie, c'est vrai, c'est aussi un petit peu une survie, une manière de pouvoir gagner sa vie. Les études, c'est pas facile c'est pas gagné, on va dire, comme en France. Il y a plein de gens qui s'arrêtent avant, et
l'opportunité, il n'y a pas d'études gratuites, il n'y a pas la fac gratuite comme en France, en fait.
Ouais, donc monter sa propre boîte, enfin gagner sa vie, sans parler de boîte, mais gagner toi-même sa vie par toi-même, c'est quelque chose de quasiment naturel ici, quoi. Enfin, d'y penser, quoi.
Et pour vous, quelle phrase résume le mieux l'entrepreneuriat new-yorkais?
Just do it, sorry.
C'est ça.
Je voulais pas l'appliquer, hein, Anaki, mais je crois que partout, même, tu vois, c'est même en France, du coup, quand tu veux quelque chose, il faut oser, quoi. Je crois que ce qui nous retient beaucoup, notamment, tu vois, un trait vraiment particulier que j'aime ici, c'est t'as moins peur de l'erreur, quoi, la fameuse failure. Ah, oui. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant dans le Learning Expedition. C'est la plupart des gens qu'on va rencontrer, la première des choses qu'ils vont te raconter, bon, ça fait partie du storytelling, évidemment. Il faut une fin heureuse à la fin. Mais par contre, c'est l'erreur de pouvoir se planter. Et nous, c'est un petit peu le postulat de notre boîte, quoi. Nous, c'est la curiosité, en fait. Il faut être curieux pour ne pas avoir peur. Et quand tu n'as pas peur de te planter, ben, t'as le droit, tu as plus de chances de réussir, quoi. Donc, c'est... Ouais.
Just do it, alors.
On va faire just ça. Do it, ouais. Qui ne tente rien n'a rien, voilà.
Ouais, ok.
Qui ne tente rien. Et ouais, après, il y a plein de choses jolies qui peuvent toujours... ouais.
Tu peux aller. Ouais. Quand vous avez lancé votre projet en 2019, si je ne me trompe pas, et pas de bol, un an après, il y a le Covid.
Oui.
Pourtant, donc vous, c'est donc forcément des expériences en présentiel, mais et donc vous n'avez pas voulu déroger à votre règle, et vous n'avez pas voulu faire des choses en distanciel. Comment vous avez géré avec cette période un peu compliquée de crise sanitaire?
Alors oui, comme tu l'as dit, en fait... C'est quand même dommage quand tu as besoin que les gens voyagent jusqu'à New York pour organiser tes Learning Expeditions. Donc effectivement, en fait, on s'est retrouvés au mois de mars l'année dernière à devoir tout annuler, tout ce qu'on avait prévu. Et en fait, hyper rapidement, on s'est quand même remis en question. Et du coup, on a créé des formats online. Donc, ça a été quand même obligatoire pour nous parce que sinon, on n'avait vraiment aucune activité. Et on s'est dit que finalement, on pouvait rendre accessible les compétences et le savoir qu'on avait. Donc, on a créé en fait des webinaires sur le leadership féminin, sur la diversité et inclusion, sur le bien-être, les sciences du bien-être, et aussi sur l'expatriation, parce que même si pendant le Covid, les gens ne bougeaient pas trop, il y a quand même des gens qui devaient s'expatrier. Donc, on a aussi ce genre de formation. Tu vois, on s'est renouvelé finalement.
C'est bien, vous avez rebondi.
Ben, on n'avait pas le choix. En fait, le truc, c'est que c'est ce qui a été génial avec le Covid, c'est qu'on a tous été forcés de se remettre en question et de se dire, bon, bah, ça, ce n'est pas possible, on n'a pas de visibilité, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça, ouais, c'est aussi pour ça que New York, on a quand même pas une période facile, mais tout de suite, les gens se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme solution? Et on s'est tous creusé la tête en cherchant des solutions innovantes, des formats sympas, parce qu'aussi les gens ont été... on s'est tous retrouvés dans ce cas où on s'est dit, bon, alors, on en a marre du truc, d'être online devant nos ordinateurs, mais il faut quand même continuer à communiquer. Et ça, j'ai trouvé ça génial de continuer à... Enfin, tu vois, on a fait des conférences avec des gens partout sur la planète et on a continué à communiquer avec les gens.
Mais forcément, c'est moins facile pour faire passer, je suppose, vos messages.
Ah ben non, t'as pas l'expérience new-yorkaise, le contact humain, ça manque. Enfin, nous, on a tellement hâte. Là, ils annoncent 1er juillet, la réouverture des frontières, et on attend que ça.
Ouais, j'imagine. Les filles, chez The Musette, j'essaye de montrer que malheureusement, il existe toujours des préjugés chez les expatriés, et surtout sur les femmes d'expat, et les femmes, entre guillemets, suiveuses. Alors, j'ai deux questions. Déjà, on va commencer avec toi, Julie. Donc, toi, tu disais, ton mari est footballeur professionnel, donc tu l'as suivi pas mal de fois. Je me dis que, tu as dû avoir pas mal d'étiquettes sur toi de femme suiveuse, femme de footballeur professionnel.
Oui.
Comment ça se gère?
Alors, on va commencer par la femme de joueur. Ça va être le premier. Moi, mon père était joueur de foot, donc pas au niveau de mon mari, tu vois, en deuxième division, pour donner un exemple. Mm-hmm. Donc, je savais à peu près à quoi m'attendre et j'ai toujours refusé de fréquenter des joueurs de foot et j'ai fini par me marier avec un joueur de foot. Ne me demande pas pourquoi.
Voilà.
Et c'est vrai que je savais à quoi m'attendre et tout de suite, j'ai pas arrêté mes études. J'ai continué quand il jouait à l'OL, j'étais étudiante. J'ai toujours voulu travailler pour avoir une vie entre guillemets normale. Et c'est vrai que t'as l'image de la fille qui suit son conjoint, qui est un peu oisive, qui profite de la situation financière. Mais derrière tout ça, en fait, c'est que quand t'es avec un joueur de foot, tu déménages tout le temps. Et puis, c'est quasiment du jour au lendemain parce que quand ils sont transférés, ils signent leur contrat et ils partent le lendemain dans leur club. Et toi, tu es là derrière. Il faut gérer ton déménagement, l'école des enfants, te recréer en fait tout un entourage parce que c'est comme une expatriation. Même si c'est de ville en ville, tu recommences à zéro.
Ah bah tu recommences, oui. Et puis c'est grâce à toi qu'il y a une vie sociale autour, il n'y a pas que le
exactement.
Foot.
Exactement, ouais, et puis il faut exactement quoi, ta vie sociale. Alors c'est vrai que dans les clubs, en général, tu te fréquentes entre joueurs parce que personne ne connaît personne dans les villes où on est, donc on fait des dîners entre nous. Et puis en fait, t'en rigoles à la fin de la réputation que t'as, parce que finalement, tu vois, à la fin de ta carrière, t'as une vie à peu près normale quoi. Tu vas chercher ton pain, tu vas. Non, mais enfin. C'est ça n'a qu'un temps, tu vois. C'est ce que je dis, c'est que, tu vois, je rencontre... mon mari, il est encore dans le foot et je rencontre régulièrement des petites copines de joueurs ou des femmes de joueurs qui sont encore en pleine carrière et je leur dis, mais profitez. Vous pouvez faire des trucs géniaux. Enfin, géniaux, des trucs géniaux, pardon, je perds mon français. Faut en profiter et un peu faire fi de l'image et des réputations qu'on peut avoir parce qu'en fait... c'est une expérience géniale. Je trouve que d'être joueur de foot, tu vis des émotions, t'as une vie... Enfin, c'est extraordinaire, en fait. Enfin, quand t'y penses, c'est vraiment exceptionnel. Et après, en fait, ça dure quoi, 15 ans maximum? Ça passe si
vite. C'est court, au final. C'est court.
Ouais. Et après, il faut se réinventer, retrouver une carrière, se renouveler, faire une Lex avec nous, tu vois.
Voilà, c'est ça, on va venir vous voir. Toi, Magali, alors si je me trompe pas, hein, à un moment, tu as mis ta vie professionnelle sur pause pour t'occuper, pour élever tes enfants. Est-ce que tu as aussi eu un regard sur ce statut de, entre guillemets, mère au foyer qui n'est pas forcément très bien vu en France, alors que ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays? Est-ce que tu as senti quelque chose là-dessus?
Oui, c'est sûr. Je pense que c'est aussi ce qui te pousse à vouloir faire autre chose, quoi. En plus, ce qui est marrant, c'est que, alors, avant d'avoir mes enfants, par contre, c'est moi qui partais tout le temps. Moi, j'étais celle qui partait et mon mari me suivait, quoi. Enfin, me suivait, m'attendait plutôt. Et du coup, là, c'est marrant, tu vois. Je suis pas cool. J'étais pas cool à l'époque, entre guillemets, quoi. Tu laisses ton mari, il faudra un jour se poser les valises et les enfants, blablabla. Et puis, ouais. Et ce qui est difficile quand en fait tu es à la maison, entre guillemets, et que tu es à l'envers, tu marches pas dans la même énergie des autres, c'est un petit peu difficile, tu vois. Moi, ce que je trouve dur, c'est d'avoir des conversations en général, mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans quoi, tu sais, quand tu te retrouves Et puis tu sèches un peu, et puis même si ça part pas d'une mauvaise intention, ben après, la conversation, elle est un peu... voilà. Donc, je crois que la connotation, elle est un peu partout pareil, hélas, à ce niveau-là. Moi, sur mon LinkedIn, j'ai tourné ça un petit peu de manière rigolote.
Oui,
mais oui. Des 7 ans de... Puis moi, je mettais un point d'honneur, franchement, aussi, à être là avec mes enfants, parce que justement, je me suis beaucoup occupée des enfants des autres, entre guillemets. Mm-hmm. Et je voyais... j'avais envie de faire différemment. Et donc, par contre, dans l'accompagnement qu'on fait, notamment des femmes, il n'y a pas photo. Pour nous, ce qu'on développe en tant que maman, quand on en élève, c'est complètement applicable à un business, quoi. Moi, en 3-4 phrases sur mon LinkedIn, c'est ça, entre gérer des conflits, 3 agendas, on s'adapte, enfin. Il n'y a pas vraiment de différence entre quelqu'un qui gère une entreprise, pour moi, quoi, quand on a tout à faire. Donc, on met très, très vite à l'aise ces dames qui viennent timidement nous voir avec des projets en leur disant « Vous rigolez, quoi, c'est par rapport à d'autres, vous êtes déjà… » Au niveau soft skills, c'est bon,
c'est
quoi.
C'est ça, high level.
Back high level, ouais. C'est bon. Donc, et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est vrai qu'encore une fois, je rebondis sur ce que disait Julie un peu plus tôt. New York, ils mettent un petit peu en avant ça, quoi. Tu vois, les soft skills et le fait. C'est un peu mode, hein, de mettre en avant les choses qu'on ne voit pas ailleurs. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce que tu représentes en tant que femme et des difficultés ou des challenges, on va dire, même pas, que tu as en tant que femme, ici, tu peux, encore une fois, tu vois, un changement de d'angle, ça peut être totalement vu comme quelque chose de positif, quoi.
Non, mais je suis bien d'accord. Non, mais c'est vrai, on est hyper forte. je voulais juste revenir sur un point sur votre projet. Vous faites sortir les gens de leur zone de confort, comme vous dites, quand ils vont faire les expériences sur mesure. Vous, c'était quoi vos sorties de zone de confort?
Moi, j'ai l'impression qu'on... En tout cas, moi, comment j'ai vécu, je pense que de déménager très souvent et de devoir t'adapter à un nouvel environnement constamment, ça a été... Ouais, c'est une sorte de sortie de zone de confort, mais récurrente.
Ouais, régulier. Ouais, ouais.
Après, je pense que ici, le gros challenge pour moi, ça a été de vouloir maîtriser l'anglais comme le français. Mm-hmm. Parce qu'en fait, tu vois, au début, tu te dis, tu parles anglais, tu comprends à peu près tout, mais quand tu travailles et que tu développes des formats, surtout quand c'est basé sur du savoir, etc., il faut quand même bien, bien maîtriser ton anglais, bien communiquer. Et ça a été, tu vois, d'avoir ton cerveau qui est capable de penser à l'américaine et à la française de façon distincte, ça a été un vrai exercice, en fait. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Je ne sais pas si Magali, c'est...
Bah oui, puis ça me fait penser, parfois on se moque, en fait, des gens qui utilisent de l'anglais dans leur français.
Oui, tu vois, je pense Jean-Claude Van Damme.
tu vois. Mais n'empêche, mais tu vois, quand on dit I'm aware, et ben maintenant je le comprends, quoi. Ouais, parce que vas-y, va, ex- m'a expliqué I'm aware en un mot, en français, sans parler de ce que c'est l'empowerment, vas-y, à part empouvoirment, ou même le mindset. Tu vois, nous, notre truc, c'est le mindset. Évidemment, bon, mais tu, en anglais, l'idée, tu la percutes direct, quoi. Ouais. En français, je pense aussi, mais si quelqu'un te doit t'en donner une définition, c'est un peu plus compliqué. Donc, ouais, la maîtrise de l'anglais, c'est vrai que c'est un challenge. C'était quoi la question de départ ?
Oui, c'était savoir, c'était justement, c'était quoi tes sorties de zone de confort ?
Non, ouais, moi, à partir du moment où tu vis à l'étranger, de toute façon, tu sors de ta zone de confort au quotidien, ça c'est sûr. Après, quand tu montes un business comme ça, surtout dans une ville comme New York, hein, où tu as tellement de gens à fort potentiel, tu peux être très vite invisible. Donc, quand tu montes ta boîte, il faut vraiment t'obliger à sortir, à participer à des events. Et quand tu y es, il ne faut pas hésiter à venir avec ton verre et dire « Hi !» voilà, et essayer de rentrer dans la conversation, parce que déjà, les New-Yorkais sont très faciles pour ça. Une des raisons pour lesquelles Alex et pourquoi nous, on arrive facilement à monter aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de... Tu peux atteindre des gens facilement parce qu'il n'y a pas ce complexe. En fait, à partir du moment où tout montre que tu es bonne dans ce que tu fais, qu'il y a... etc., etc., les gens, ils te donnent, ils t'ouvrent leur porte, tu vois. Donc, il faut, ouais, au quotidien, dans la vie active, parce que même si ça fait, moi, ça fait 13 ans que je suis là, il y a des choses, un Américain va ouvrir sa bouche, je vais être choqué, quoi, encore aujourd'hui. Et pourtant, faut rentrer dans la conversation. Bon, des sujets qui choquent, nous, en tant que Français, même en tant qu'Américains, nos amis, on a plein en ce moment. On sort d'une période noire avec Trump, les histoires de flingues, comment on appelle ça, d'armes, etc. Nos voisins, ils sont pour le premier amendement. Tu as des discussions à table, ben, tu serres les fesses parce que tu dis, non, je comprends pas. Mais en même temps, faut aller sur leur terrain parce que voilà, c'est dans leur ADN, comme le, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Donc tu sors de ta zone de confort au quotidien. Ouais.
Ouais, j'imagine. Ouais. Bon, alors les filles, pour finir cette petite interview, on va faire des questions tac au tac, des questions légères, et vous répondez le plus vite possible. Alors Julie, Mbappé ou Zidane ?
Mbappé.
Magali, Like a Virgin ou Like a Prayer ?
Oh my god, attends, je ne me rappelle plus là, Like a Virgin.
Si vous deviez vous expatrier à nouveau, ça serait où ?
En Asie, j'aimerais bien Hong Kong, moi.
Ah, yeah, tu m'as
eu. Oh, pardon, je t'ai coupé l'air.
Non, vous allez retrouver. Vous allez
on va se retrouver, Julie. Non, mais allez, Rio.
Ah, Rio, ok. Ouais. Visiter New York en calèche ou en taxi ?
Ah, en taxi.
En taxi. Hein. On a les chevaux, quoi.
Ce qui vous manque le plus de la France ?
Les Michoco et la parapharmacie.
Elle me parle toujours de Monoprix, hein, t'as pas dit.
Ah bah, Monoprix, c'est mon rêve. C'est, je veux dire, je vais à Paris, je vais à Monoprix, pas voir la Tour Eiffel. C'est, oui.
Tu vas monter une franchise là-bas.
Ah là là, m'en parle pas.
tu vois, les cigales.
Ah oui, d'accord.
Ouais,
un conseil pour entreprendre.
Ah, de foncer et d'oser.
De pas s'entourer de gens des gens avec qui tu es à l'aise.
Ah ok, se forcer à aller vers des gens avec qui on...
C'est différent, voilà. Ouais, voilà, okay. C'est comme ça que ça avance plus vite.
Et pour finir, pour vous, The Musette, c'est...
Alors, les Musettes, pour moi, c'est une connexion. C'est rafraîchissant d'avoir mis en lumière, en fait, les femmes, enfin, les conjointes suiveuses. Et je dirais surtout que c'est un concept, connectant mondialement.
Oui.
Parce que tu vois des gens de tout le monde, de partout dans le monde, et du coup, tu te dis, ah ouais, quand même, on est super forte et on est partout.
C'est ça.
Ouais. Bah,
Vas-y.
Ouais. Non, moi, je cherche les musettes, c'est quoi ? Ah, moi, j'ai trouvé, tu vois, nous, c'est expatriation entrepreneuriat. T'as trouvé le combo génial, quoi. Donc, c'est la niche. Et puis, je trouve ça, c'est accélérant, tu vois, dans notre jargon, c'est un accélérateur. Je pense qu'effectivement, les expats, souvent, on les envie, on fantasme dessus. Et c'est pas toujours facile. Et je pense que quand t'as un lieu comme ça où tu peux échanger et donner des tips, pour se remonter le moral, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments, c'est pareil, hein, c'est les sciences qui le disent, c'est les études et tout, dans le cycle de l'expatrié, il y a quand même pas mal de moments où tu es down, et d'avoir des gens qui te disent c'est bon, c'est juste une phase, fais ci, fais ça, c'est bien quoi. Donc well done.
Ouais, bravo. Merci beaucoup. Merci Julie et Magali de nous avoir ouvert les portes de New York. On sent que c'est une ville que vous adorez.
Ouais.
De nous avoir expliqué votre projet, de nous avoir partagé votre regard sur l'expatriation. On vous souhaite de développer plein d'expériences. Et puis, on se retrouve bientôt. Et merci de nous avoir suivis.
Merci à tout le monde. Ouais. C'était un plaisir.
Merci, à bientôt.
Allez, bye.
Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné ses bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs et leurs projets aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'expatpreneur. En mariant photographie ancienne, histoire et culture portugaise avec l'artisanat textile, Paula réalise une aventure entrepreneuriale originale et fidèle à ses valeurs. On sent chez Paula une forte volonté de revenir à ses origines et les faire revivre. Dans ce podcast qui lui est consacré, on parle enracinement, différences culturelles et de l'entrepreneuriat qui n'a pas d'âge. Venez écouter et découvrir la lumière qui se cache derrière Paula et son entreprise Loose Edition. Bonne écoute!